C'est ici qu'il faut de la finesse. Que l'homme doué d'esprit calcule le nombre de la bête, c'est un chiffre d'homme. Son nombre, c'est 666. Bonsoir, chers amis. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour aborder un thème d'une haute importance dans notre époque actuelle, qui est le 666, un chiffre d'homme. Pourquoi haute importance dans l'époque actuelle? C'est parce que nous sommes justement arrivés à une période dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, qui correspond à un temps d'apocalyptos, c'est-à-dire à un temps de révélation. Alors qu'autrefois, l'enseignement traditionnel, c'est-à-dire l'enseignement qui nous vient des instructeurs qui avaient initié les premières communautés atlantéennes et qui avaient laissé, avant de quitter l'humanité en Atlantide toujours, avaient laissé à cette humanité un dépôt sacré, un enseignement qui devait mener l'humanité entière à son plein accomplissement, eh bien, cet enseignement était réservé autrefois à des petites communautés, à des groupes d'initiés très fermés, et aujourd'hui, de plus en plus, une grande partie de cet enseignement-là va être transmis à des gens et à un public qui est de plus en plus élargi. Alors, cet enseignement est transmis, et entre autres, il est transmis dans les textes sacrés, comme les textes bibliques, et entre autres les textes bibliques canoniques, qui se retrouvent donc dans nos Bibles contemporaines connues. Eh bien, ces textes sacrés sont des livres hermétiques. Et ça, il faut le comprendre dès le point de départ. C'est-à-dire que ce sont des livres qui ont été écrits par des initiés et pour des initiés. C'est-à-dire écrits par des gens qui avaient la connaissance, qui étaient déjà liés à des écoles qui transmettaient ce savoir ancien de l'Atlantide et également qui étaient destinés à des gens qui avaient aussi un degré de connaissance. Donc, la Bible n'est pas un livre ouvert. La Bible n'est pas un livre qui est offert à l'ensemble de l'humanité, mais c'est un livre qui est offert à un nombre limité de personnes, c'est-à-dire à un nombre de personnes qui ont déjà une connaissance de base. Et dans cette Bible, on retrouve l'Apocalypse de Saint Jean. Saint Jean qui était un très haut initié. Saint Jean est connu dans la Bible sous le nom du fils de la veuve de Naïm. Et le fils de la veuve de Naïm, c'était la réincarnation d'un très haut dignitaire initiatique de l'Égypte ancienne, de l'Égypte pharaonique. Alors, Saint Jean était un grand initié de l'ancienne dispensation, et il a été aussi, par la suite, initié par le Christ lui-même, et il est devenu le suprême régent de l'initiation sur la planète, le représentant officiel, si on veut, de la conscience christique. Alors, tout ça pour vous dire que Saint Jean n'était pas un ignorant, et Saint Jean avait des connaissances extraordinaires dans le domaine de l'ésotérisme. Il décide d'écrire l'Apocalypse. Et dans cet Apocalypse, il va nous révéler quoi? Il va nous révéler l'ensemble du processus évolutionnaire de notre humanité. Il va nous révéler ça de la façon suivante. Il va nous parler des anciennes étapes dans la progression de l'humanité, où cette humanité est d'abord naissante, passe à travers différentes états de conscience, arrive jusqu'à nous, et il nous décrit également les étapes qui vont suivre jusqu'à la pleine réalisation jusqu'à la crucifixion initiatique, la mort initiatique. Alors, dans l'Apocalypse, on retrouve tout cela. On retrouve le passé de l'humanité, le futur de l'humanité. Et pour des gens comme nous, qui sommes intéressés par les sciences occultes, par les sciences ésotériques, on retrouve la façon de comprendre son passé et la façon de savoir quelles vont être les phases de développement futur qui vont nous amener à notre pleine réalisation. Et les connaissant, on peut opérer sur ce processus normal de l'humanité une accélération. Et ça, c'est le but des écoles initiatiques, c'est le but des écoles ésotériques, c'est d'accélérer le processus de l'évolution. Si bien que si vous rencontrez un alchimiste, il va vous dire la chose suivante. Prenez la Genèse de Moïse. Eh bien, dans le texte de la Genèse, vous allez retrouver tout ce qu'il faut, toutes les données pour réaliser le grand œuvre. Prenez l'Apocalypse de Saint Jean, vous allez trouver dans ce texte, seulement dans ce texte, si vous le savez le lire, vous allez retrouver toutes les données vous permettant de réaliser la pierre philosophale. Alors ce soir, bien sûr, on ne voit pas en détail tout cela, c'est évident. On va se limiter au 666 un chiffre d'homme, mais je veux quand même vous le situer. Je veux vous le situer dans une tradition. Je veux vous le situer dans un enseignement qui a une source très ancienne, dans un enseignement qui était autrefois réservé à des initiés et qui commence aujourd'hui à être livré à un public élargi du fait que nous approchons d'une période qui est l'ère du Verseau où tout va être beaucoup plus accéléré dans notre propre développement à tous les niveaux. Si on situe donc la bête, il faut commencer par voir le début de l'Apocalypse. Le début de l'Apocalypse s'ouvre sur des adresses faites à sept églises. Pourquoi sept églises? Alors là, on tombe déjà dans une explication des nombres dans l'Apocalypse. Alors, si on regarde ça en détail, on va se rendre compte de ceci. Le chiffre 7, c'est un chiffre qui a toujours eu une très grande importance dans la spiritualité et qui a une importance extraordinaire dans l'Apocalypse. Relisez l'Apocalypse, vous allez voir comment ce nombre-là a une place extraordinaire. Le 7 représente quoi dans la tradition numérologique, dans la tradition kabbalistique? Il représente la virginité. Et on sait comment la virginité a une importance dans le développement initiatique. Il représente la virginité pourquoi? Parce que le 7 n'a pas été engendré par un double, un doublet. Bon, regardez, c'est-à-dire que ce n'est pas un nombre pair. Voilà. Alors, il n'a pas été engendré comme le 4 par le 2 ou comme le 6 par le 3. C'est un nombre, donc, qui n'a pas été engendré. Et c'est également un nombre qui n'engendre pas un autre nombre en se doublant dans les limites des 10 premiers chiffres qui correspondent aux 10 séphirotes, qui correspondent à déjà tout un univers de sens. Alors, si bien que si vous prenez 7 et vous le doublez, vous obtenez 14. Donc, vous êtes en dehors des 10 premiers. Tandis que le 2, par exemple, engendre le 4. Le 3, le 6. Le 4, le 8. Voyez-vous, le 5, le 10. Alors, on s'est rendu compte très rapidement dans la tradition numérologique que ce 7 n'était ni engendré par un double, ni il n'engendrait pas non plus par son double un autre nombre, dans les limites du 10. On a traduit ça comment dans la mythologie? On a traduit ça par la déesse de Minerve. Alors, la déesse de Minerve, c'est une déesse qui n'avait pas de mère. Alors là, vous retrouvez le parallèle avec « n'était pas engendré » et qui n'avait jamais été mère. Donc, qui n'engendrait pas. Et de ce fait, ce nombre qui n'a jamais engendré et qui n'est pas engendré, bien c'est le nombre qui symbolise la virginité. Également, on sait comment le 7 est lié au pouvoir spirituel parce qu'il unifie deux nombres encore extraordinairement importants qu'on n'a pas le temps d'analyser ce soir en détail, le 3 et le 4. Mais disons simplement que le 3 représente la divinité, la trinité, et que le 4 représente la matérialité. C'est pourquoi, dans l'antique Égypte, on avait les trois pyramides qui représentent le principe divin, le ternaire divin, et on avait à côté le quaternaire qui représentait la quadruplicité, qui représentait la matière. Alors, on avait donc le 3 et le 4, le septénaire complet avec les trois pyramides et le sphinx. Alors là, on voit comment ce septénaire avait une puissance triomphale dans la compréhension ancienne des nombres. Alors, voilà pourquoi il y avait sept églises. Et l'adresse qui est faite à ces sept églises, ce sont en fait les sept attributs primordiaux que l'homme doit développer pour devenir finalement un Dieu créateur, pour arriver à un état qu'on appelle un état initiatique. Alors, chacune des adresses aux églises, c'est une phase du développement de l'humanité ou d'un individu. C'est un attribut que cet individu-là doit acquérir, une vertu que cet individu-là doit acquérir pour en finalement arriver au plein accomplissement. Alors là, vous avez les premiers chapitres de la Genèse qui s'ouvrent sur cela, sur ces sept églises et ces sept facultés que l'homme doit développer pour en arriver à une pleine réalisation initiatique. Et là, si on va un peu plus vite, on se rend jusqu'au 12e chapitre de la Genèse. Et au 12e chapitre de la Genèse, Saint Jean nous raconte une vision qu'il a eue. Alors, on sait que Saint Jean, lorsqu'il a rédigé l'Apocalypse, était sur l'île de Patmos. L'île de Patmos est dans le monde un centre vibratoire très important qui permettait à des clairvoyants, comme Saint Jean, d'avoir les conditions vibratoires nécessaires pour obtenir des visions particulières. Alors, l'île de Patmos, donc un lieu géographique et un lieu vibratoire plus particulièrement un lieu vibratoire du reste, qui permettait à Saint-Jean d'entrer dans un état d'extase, dans un état second. Et ça, il faut faire attention. Dans la Bible, à chaque fois que Dieu se manifeste à l'homme, cet homme est dans un état de conscience altérée. Ça, ce serait l'expression moderne pour parler de ses extases, de ses prophéties. Un état de conscience altérée. C'est-à-dire que cet homme n'est plus limité par ses perceptions sensorielles ordinaires. Cette conscience de veille ordinaire que nous avons tous aujourd'hui est altérée. Et ils sont dans un état, donc, que l'on décrit ici comme un état extatique. Alors, Saint-Jean, dans cet état second, dans le 12e chapitre de son Apocalypse, nous parle d'une vision qu'il a et où il voit une femme et un dragon. Qu'est-ce que cela signifie dans la symbolique ésotérique? La femme est en train d'enfanter et le dragon se prépare à dévorer l'enfant. Ça, c'est la scène, en gros, qui nous commence à nous présenter au 12e chapitre. Alors voilà, le dragon. Le dragon a toujours représenté en occultisme, et là, je suis certain que beaucoup d'entre vous ont déjà une compréhension de ce phénomène, parce que il s'agit d'avoir 6 mois d'études occultistes pour comprendre le sens du dragon. Le dragon est partout. Il représente, si l'on veut, la passion. Alors, tout ce qui est passionnel à l'intérieur de soi, tout ce qui relève de la personnalité passionnée de l'individu, ça, c'est symbolisé par le dragon. Le dragon représente aussi, d'une manière plus spécifique, les esprits lucifériens, qui sont les instigateurs en l'homme de cette passion intérieure qui est liée au sang, et enfin, on verra un peu plus tard, on détaillera un peu plus tard. Alors, vous avez ce dragon, symbole de la passion, et vous avez la femme enceinte. La femme enceinte représente évidemment la déesse mère, le principe de la fécondité sur notre planète. Alors, tout ce qui est fécondité, tout ce qui est reproduction est symbolisé dans la tradition ésotérique par une femme enceinte, donc la déesse mère. Ça, c'est pour la femme. L'enfant, lui, représente l'humanité. Vous savez que l'enfant mâle, parce que c'est un enfant mâle dans le texte de l'Apocalypse, l'enfant mâle, l'homme, un seul individu, représente l'ensemble de l'humanité dans les textes sacrés. Prenez Adam. Adam a chuté, mais la chute d'Adam, c'est la chute de l'humanité. Et Jésus, plus tard, est venu et il a amené le salut, la rédemption, et c'est par un seul homme, dans nos textes sacrés, que la rédemption de l'humanité s'est opérée. Voyez-vous? Alors, Jésus, lui aussi, représente l'humanité. Et si on regardait d'autres exemples, on en trouverait plusieurs. Alors, cet enfant qui doit naître, c'est l'humanité. Cet enfant que la femme attend, et que le dragon attend aussi, pour Saint-Jean et pour les lecteurs de ce livre-là, c'est évidemment l'humanité. Alors, on a donc la déesse mère, l'humanité et le principe passionnel luciférien qui guette l'enfant pour le dévorer, c'est-à-dire pour l'investir, si on veut. On sait comment ce terme de dévorer est important. Vous savez, bon, le Bouddha a dévoré du sanglier. Bon, c'était simplement une façon de dire que le Bouddha avait assimilé en lui la connaissance ésotérique symbolisée par le sanglier. Donc, dévorer un livre, par exemple, dans la tradition alchimique, ça ne veut pas dire de le manger, c'est évident, mais ça veut dire de l'incorporer en soi. Alors, le dragon ne voulait pas non plus manger l'enfant avec des dents. Il faut pas penser ça comme ça. Il faut penser qu'il voulait l'investir de lui-même, si on veut. Alors, vous avez donc cet enfant. Et on nous dit, Saint-Jean nous dit donc, que cet enfant a été sauvé. Parce que cet enfant a été élevé aux cieux. Qu'est-ce que cela peut signifier? Eh bien là, il faut remonter à une époque très ancienne dans l'histoire de l'humanité, qu'on appelle l'époque lémurienne. La Lémurie, c'est la période qui a précédé, le continent qui a précédé l'Atlantide, que l'on connaît mieux. Mais en Lémurie, donc, c'était l'humanité naissante. C'était une humanité très primitive, qui commençait du reste simplement à s'exprimer. Et cette humanité n'avait pas un état de conscience comme celui que nous avons aujourd'hui. C'était une humanité qui avait une conscience orientée vers les mondes supérieurs. Si bien que les hommes de cette époque, plutôt que de voir les réalités physiques extérieures à leur propre corps, comme on les voit nous aujourd'hui, ils voyaient à l'intérieur, par vision qu'on appellerait aujourd'hui une vision spirituelle, ils voyaient leurs guides célestes, des dieux. Ils voyaient des êtres qui habitaient sur des plans de matérialité supérieure ou moins dense. Alors, c'était une conscience orientée vers les mondes intérieurs, tandis qu'aujourd'hui, on a une conscience orientée vers les mondes extérieurs. Si bien que cet enfant, qui était finalement cette humanité enfant, eh bien, avait une conscience qui ne pouvait pas être investie par le dragon, par les esprits lucifériens. Alors, les esprits lucifériens ont essayé, à cette époque de l'humanité, d'influencer l'homme, de l'amener à la passion, mais comme cet homme n'avait pas le regard tourné vers l'extérieur, cette influence ou cette tentative luciférienne a échoué. Et c'est pourquoi on nous dit que l'enfant a été élevé dans les cieux et qu'il a donc échappé au dragon. On nous dit également que ce dragon avait chuté sur la planète, avait chuté sur la Terre. Pourquoi on nous dit cela? Ça se réfère à l'histoire des esprits lucifériens. On n'a pas le temps de voir ça en détail non plus ce soir, mais déjà plusieurs personnes connaissent cette information-là, à savoir que les esprits lucifériens sont des anges, et sont des anges retardataires. La religion, l'Église, les religions vont nous dire que ce sont des anges déchus. Et ce sont des anges qui ont été combattus par Saint-Michel Archange, qui est le suprême chef des milices célestes, et qui ont été donc parachutés sur Terre. Pourquoi on nous dit parachutés sur Terre? C'est parce que ces esprits sphériens étaient des consciences angéliques. Et les consciences angéliques, qui ont décidé, à un moment donné dans leur développement, de prendre un chemin anti-évolutif, de prendre un chemin retardataire. Et ils se sont tellement retardés dans leur développement qu'ils étaient plus capables de suivre les anges, qui, eux, poursuivaient leur évolution. Alors, ils sont devenus ce que les occultistes appellent des retardataires. Et plutôt que pouvoir toujours orienter vers leur haut leurs efforts, ils ont commencé à orienter leurs efforts vers le retard, c'est-à-dire vers le bas. Et c'est pourquoi Saint Jean nous dit ils ont chuté sur terre. C'est-à-dire que leur conscience s'est peu à peu obscurcie et ils se sont de plus en plus intéressés à l'aspect beaucoup plus matériel que les anges ordinaires, par exemple, qui sont tournés vers Dieu, nous dit également la tradition religieuse. Alors, vous avez ce dragon, ces esprits lucifériens, qui ont été parachutés sur terre, qui sont donc des êtres venus d'ailleurs. Attention, qui sont des êtres venus d'ailleurs, parachutés sur notre planète, parce qu'ils ont commencé à orienter leur conscience vers des mondes qui étaient des mondes inférieurs. Donc, voilà pour le dragon. On nous dit également, la femme avait des armes contre ce dragon. Elle avait une première arme qui était les ailes. Alors, on sait très bien que les ailes, c'est quelque chose qui permet l'élévation. Et les entités élevées, on les symbolise toujours, on les représente toujours avec des ailes. Prenez les anges, par exemple, prenez les archanges, prenez les extraterrestres qui ont visité les Amérindiens, qui ont visité différentes civilisations sur Terre. On les a souvent représentés avec des ailes pour montrer qu'ils venaient d'ailleurs, pour montrer qu'ils étaient supérieurs. Alors, cette femme a une possibilité qui lui est donnée par la divinité, que sont les ailes. Alors, ces ailes, c'est ce qui permet à cette femme de s'élever, précisément. Voyez-vous? Alors, ces ailes représentent tous les moyens qui ont été donnés par les instructeurs primordiaux, les instructeurs atlantéens, à l'homme pour qu'il puisse s'élever. Par exemple, la prière. Par exemple, l'utilisation de la sexualité dans une orientation supérieure. Ce que nous représente, par exemple, le balai de la sorcière. Alors, la sorcière, pour s'élever, elle a besoin de son balai. Et on sait que le balai, c'est un symbole phallique. C'est un symbole de l'énergie sexuelle. Alors, l'énergie sexuelle, ça donne des ailes lorsqu'elle est orientée d'une manière supérieure. Alors, la femme avait d'abord ça, des moyens donc de s'élever. Et elle avait aussi la terre. Parce qu'on nous dit du dragon est émergé un fleuve d'eau qui représente la passion pour engloutir la femme et que la terre s'est ouverte et qu'elle a contenu ses eaux. Alors, cette terre, c'est la matière. C'est la matière qui offre une résistance. C'est pourquoi Saint Paul est le sexologue de la chrétienté, c'est pourquoi Saint Paul disait « Vaut mieux se marier que de brûler. » Parce que lorsque une personne, par exemple, pense à l'acte sexuel et qu'il entretient dans le monde de la pensée des idées de passion, eh bien, à ce moment-là, c'est presque illimité. Il peut être constamment influencé par cette passion intérieure et la nourrir d'une manière intérieure. Tandis qu'au niveau de l'acte sexuel, il va y avoir une limite. Donc, la matière offre une résistance même à la passion. Ça, c'était le deuxième enseignement que Saint Jean voulait transmettre lorsqu'il a dit que la femme avait cette terre qui pouvait aussi l'aider à se débarrasser ou à contrer des influences du dragon. Alors ça, c'est pour l'histoire passée de l'humanité, l'histoire lémurienne. Maintenant, On sait aujourd'hui, si on regarde les humains de notre 20e siècle, que finalement, le dragon a réussi à dévorer l'enfant. Et que finalement, le dragon a réussi à séduire cette humanité. Et nous en sommes aujourd'hui à une époque où cette humanité est imbue et influencée d'une manière extraordinaire par la passion luciférienne, par l'énergie que représentait le dragon de l'Apocalypse. Alors maintenant que nous sommes à cette étape-là, nous allons essayer de comprendre ce que pouvaient représenter les fameuses bêtes présentées par Saint Jean dans l'Apocalypse. La première bête citée par l'Apocalypse, c'est une bête à laquelle le dragon a remis son pouvoir. Donc c'est maintenant quelque chose de plus terrestre. C'est déjà quelque chose qui est plus près de nous, parce que le dragon originel, les esprits luciférien qui venaient d'ailleurs, lui ont donné le pouvoir. Alors ça montre que c'est déjà plus terrestre, que ça nous appartient déjà plus à notre propre évolution. Cette première bête émerge de l'eau. Je répète que l'eau est le symbole de la passion, que l'eau est le symbole également de la reproduction. Alors c'est toujours lié justement à cet élément passionnel, c'est lié à l'astral. Quand on veut symboliser l'astral, on met de l'eau. Voyez-vous, c'est le monde de l'émotion, c'est le monde de la passion. Alors, cette bête émerge de l'eau. Cette bête représente donc la passion sexuelle, l'égoïsme et toutes les manifestations égocentriques de la personnalité. Et on nous dit, cette bête avait reçu une blessure mortelle, mais cette blessure mortelle fut guérie. Qu'est-ce que Saint Jean nous enseigne à ce moment-là? Saint Jean nous montre que dans la vie d'un mystique, que dans la vie d'un aspirant, il y a toujours un moment où cet aspirant prend conscience qu'à l'intérieur de lui, il y a une bête. Et à ce moment-là, bien sûr, dans son élan spirituel, il décide de combattre cette bête. Et un jour, il se dit, voilà, j'ai réussi à éliminer en moi l'égoïsme. J'ai réussi à éliminer en moi les éléments de passion. Je suis maintenant libéré de la personnalité. J'ai fait le don de la personnalité et là, je fonctionne sur un plan spirituel. Alors, l'aspirant, le mystique, se trouve très souvent dans cette illusion, dans les débuts. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que très souvent, c'est prématuré. Qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, il se produit ce que un ami rosicrucien appelle la revanche de la personnalité. Et c'est là que les passions qui avaient été dominées pendant une très longue période de temps, peut-être des années, peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, tout cela maintenant s'éveille. Et le dragon et la bête renaît en soi. Et c'est ce que Saint Jean veut symboliser lorsqu'il parle de cette blessure mortelle qui a été guérie, pour bien montrer que l'aspirant, que le mystique, peut parfois avoir cru donner le coup final à cet élément de bête, à cet élément de personnalité en lui, mais qu'à un moment donné, cette personnalité peut se guérir et reprendre le terrain, si on veut. Alors ça, c'est la revanche de la personnalité qui est symbolisée dans cette première bête. Il y a une deuxième bête. Une deuxième bête qui est présentée par Saint Jean, qui, elle, n'émerge pas de l'eau, mais elle émerge de la terre. Donc, elle émerge de la matière dense, de la matière dure. Saint Jean veut symboliser, à ce moment-là, le matérialisme. Et il nous dit, cette bête qui émerge de la terre, vivifie la première bête qui, elle, est émergée de l'eau. Pour nous montrer que le matérialisme, la conscience matérielle, qui est donc tournée uniquement vers cette terre, eh bien, cette conscience matérielle peut donner finalement une facilité à la passion et à l'égoïsme de se manifester. Et ça, c'est évident pour tout le monde. Regardez aujourd'hui la façon dont on développe les programmes d'éducation sexuelle. Regardez comment on présente les choses sur les niveaux psychologiques. Eh bien, on dit, voilà, pensez un peu à vous. La sexualité, c'est très bien. Bon, on parle sur un plan simplement matériel. Et évidemment, sur un plan matériel, on ne peut pas dire autre chose que ça. Comprenez-vous? Mais c'est en cela que la deuxième bête, la bête du matérialisme, peut facilement donner vie à la première bête, qui est la bête de la passion. Donc, une bête qui émerge de la terre. Même symbole que tout à l'heure lorsqu'on a dit que les esprits lucifériens avaient chuté sur terre pour montrer qu'ils étaient devenus matérialistes. Voyez-vous? Alors, on retrouve la même chose avec une bête qui naît de la terre et qui, elle aussi, représente la passion, l'égoïsme lié au matérialisme. Alors ça, c'est la deuxième bête. Mais Saint Jean nous dit, ayez de la finesse, mes amis, parce que cette deuxième bête porte à un nombre. Et ce nombre, c'est 666. Alors ça nous introduit à toute la compréhension du phénomène des nombres. Alors les nombres qui ont une importance capitale, je vous dis que c'est la première importance dans tous les textes ésotériques hermétiques, particulièrement dans les textes bibliques. Regardez ce que Saint Augustin, qui est un père de l'Église, qui a été le grand docteur de l'Église jusqu'au moins jusqu'à Thomas d'Aquin, eh bien Saint Augustin disait ceci. L'inintelligence des nombres empêche d'entendre beaucoup de passages figurés et mystiques des Écritures. Et il n'était pas le seul. Je vous donne une citation d'un père de l'Église pour bien montrer justement que dans cette Église, on accordait une importance très grande au nombre. Et vous avez le philosophe Pascal qui disait « Le Vieux Testament est un chiffre ». Et vous savez précisément que ce Vieux Testament, c'est un écrit hébraïque dans l'hébreu, et cette langue, c'est une langue kabbalistique. Et la kabbale, c'est numérique. Donc, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, tout au moins, est un texte qui a été écrit d'une manière totalement mathématique. C'est pas pour rien que Pascal disait le Vieux Testament est un chiffre. C'est un chiffre, précisément. Donc, les chiffres ont une très grande importance. Et les pères de l'Église le savaient. Les pères de l'Église étaient beaucoup influencés par la tradition pythagoricienne. La tradition pythagoricienne qui enseignait ceci, tout est arrangé d'après le nombre. Où chaque nombre avait des puissances et des vertus. Où chaque nombre représentait un principe formel, représentait une force archétypale, un archétype. Voyez-vous, ce qui nous apprend ceci, c'est que chaque objet dans le monde physique, chaque objet dans notre petite pièce où on se trouve maintenant, chaque objet sur notre planète, chaque objet dans notre système solaire, chaque objet dans les univers et tous les univers sont composés d'après des valeurs numériques, répondent à une forme qui est géométrique. Et là, il faut comprendre le rapport qui existe entre la géométrie et la mathématique. Et on se rend compte, si on fait des études à ce niveau-là, que la géométrie est principalement chiffrée. Et que chaque figure dans l'espace représente aussi un nombre. Et ça avait été très développé dans la tradition pythagoricienne. Et ça a été développé dans la tradition occultiste. Alors, tous les occultistes ont accordé à la forme une place prédominante. Voyez-vous, et je vous donnerai des exemples tout à l'heure, un objet devait avoir telle forme. Il devait être placé à tel endroit. Il devait être entre tel objet et tel autre objet. Voyez-vous, tous ces détails-là de structure, de forme, la pièce dans laquelle on se trouve devait avoir telle dimension par telle dimension. Voyez-vous, ça, c'est des données qui sont primordiales en magie et qui sont primordiales en occultisme, qui sont liées à cette valeur, justement, du nombre. Et cette valeur-là avait été, bien entendu, un peu vilipendée. On disait, les occultistes sont des superstitieux, sont un peu maniaques sur les formes. Maintenant, la science a fini par découvrir des choses. Et vous avez, dans la chimie moderne, un concept qui est celui-ci, qui est le concept des isomères, qui correspond très bien au concept ésotérique de la forme. Les isomères, qu'est-ce que c'est en chimie moderne, en science? Un isomère ou des isomères, ce sont des composés qui ont une même formule brute, c'est-à-dire qui possèdent les mêmes atomes dans les mêmes proportions. Sauf que la position de ces atomes est différente. La position relative des atomes est différente. Alors, on s'est rendu compte que si on avait une molécule qui était formée d'un même nombre d'atomes, dans une même proportion, et les mêmes atomes, les mêmes constituants, si ces atomes-là étaient placés différemment, le composé, non seulement était différent, mais il avait des propriétés totalement différentes. Alors ça a étonné, évidemment, les scientifiques, parce que ce n'était plus maintenant la valeur des constituants du composé qui était importante, mais la forme et la position qu'occupaient ces différents atomes dans l'espace. Alors ça a été une révélation extraordinaire, mais c'était connu depuis toute éternité par les ésotéristes. C'est pourquoi Pythagore disait que la fameuse boisson grecque qui était très bonne pour la santé, l'hydromiel, qui était un composé d'eau et de miel, n'avait pas une valeur bonne pour la santé parce qu'elle était composée d'eau et de miel, mais parce qu'il y avait une proportion de 3. Et que c'était la proportion de 3 entre le composé d'eau et le miel, donc l'union dans une proportion de 3, qui faisait que l'hydromiel avait un effet bénéfique sur la santé. monde scientifique des enseignements finalement qui remontaient à l'époque de Pythagore et qui remontaient au temple égyptien et qui remontaient à l'Atlantide. Donc des enseignements qui ont toujours été d'actualité dans les milieux occultistes, mais qui reprennent un peu vie finalement lorsque la science moderne, le rationalisme moderne leur donne une certaine note de crédit. Alors on a cet exemple de l'hydromiel chez Pythagore qui est très significatif et qui montre comment c'est dans le fond, pas la matière comme telle, mais c'est la forme que va prendre cette matière qui va lui donner une puissance et qui va lui donner une fonction dans notre univers. Alors ça, c'est très, très grave, comprenez-vous? Et c'est pourquoi on fait toute une conférence sur 666. Mais il faut saisir que ce nombre-là a une valeur fonctionnelle. C'est une fonction dans l'humanité, comprenez-vous? Et ça, c'est très important. Donc la forme au niveau géométrique, au niveau mathématique, qui donne la fonction d'une chose. Et c'est pourquoi, dans cette même tradition des pères de l'Église et de l'Église, on a eu une importance dans l'Église même accordée à la forme. Si bien qu'on retrouve des objets rituels, des objets magiques, qui ont une forme particulière. Par exemple, l'ostensoir. L'ostensoir est un objet magique dans l'Église qui est composé comme suit. Il y a un pied, bien sûr. Il y a un lieu, un cercle au centre où on va placer le Saint-Sacrement. Il y a autour des rayons. Et les rayons sont faits comme suit. Il y a un rayon droit, un rayon courbe. Un rayon droit, un rayon courbe. Un rayon droit, un rayon courbe. Et ça s'alterne comme ça tout autour du cercle où se trouve l'hostie. Alors, qu'est-ce que cela représente? Cela représente le but ultime de l'Église et le but ultime du travail eucharistique, qui est la réunion des deux polarités. Des rayons droits, qui symbolisent le soleil, et des rayons courbes, qui symbolisent la lune. Donc, l'union du soleil et de la lune, ce qui est le but des alchimistes, rappelez-vous, unir le soleil et la lune, l'union également des énergies sexuelles masculines, les rayons droits, et des énergies sexuelles féminines, les rayons courbes. L'union, plus précisément sur un plan mystique, des rayons droits qui représentent le Fils, le Dieu Soleil, et des rayons courbes qui représentent la Mère, la Déesse Mère. Alors, l'union de la Mère et du Fils. Encore un autre symbole. Et ce symbolisme du rayon droit, du rayon courbe et alterné, eh bien, vous allez le retrouver ailleurs. Représentez-vous maintenant mentalement l'ostensoir avec son rayon droit et son rayon courbe, et ainsi de suite, tout autour du cercle. Vous allez vous rendre compte que cette structure, cette forme, on la retrouve ailleurs. On la retrouve dans un mot, qui est le nom d'une divinité égyptienne, Isis. Alors, Isis, comment c'est écrit? Une barre droite, une barre courbe, une barre droite, une barre courbe. I-S-I-S, Isis. Comprenez-vous? Comprenez-vous que dans l'ostensoir, vous avez ce principe ésotérique qui était appelé en Égypte ancienne Isis. Vous avez cette union du droit et du courbe, du pôle féminin, du pôle masculin, du soleil et de la lune. Alors vous avez ça au niveau de l'ostensoir. Vous retrouverez ça au niveau du baptistère. Et au niveau du baptistère, c'est-à-dire l'endroit où l'on baptise les enfants, eh bien à ce moment-là, vous avez un symbolisme qui est tout un petit peu différent, mais qui veut dire la même chose. Vous avez dans le baptistère, qui est faites en forme de coquillage, vous avez des nervures droites qui partent du centre et qui s'en vont vers la périphérie, et vous avez le tour, le bord, qui est ondulé. Qu'est-ce que cela symbolise? Encore une fois, les nervures droites qui représentent le Fils et l'ondulation tout le tour du baptistère qui représente la mer. La mer. Voyez-vous? La mer, M-E-R, et la mer, M-E, accent grave, R-E. Voyez-vous? Les vagues de la mer sont symbolisées par les ondulations. Ça, c'est le principe féminin. C'est le principe lunaire. Vous voyez comment la lune aussi influence les marées. Encore un M. Voyez-vous? Mais là, à quoi je vous introduis? Je vous introduis à comprendre que même dans la calligraphie des mots, il y a la forme qui entre. Je vous l'ai montré par Isis. Isis qui, non seulement c'est un mot, vous savez, mais c'est des formes qui correspondent à des principes ésotériques. Alors, vous avez la même chose avec le M. Le M qui débute le mot « mer », par exemple, rappelle justement les vagues de la mer, rappelle l'ondulation de la mer. de la mère MER. Regardons maintenant les mères de personnages importants dans la tradition ésotérique. Vous avez Marie, mère de Jésus. Marie, le mot commence par un M. Vous avez Myriam, mère de Moïse. Le mot commence par un M. Vous avez Maya, mère du Bouddha. Le nom commence par un M. Vous avez Maritella, mère de Krishna. Le nom commence par un M. Le M qui représente la matière, la matrice, la mère, la marée. Voyez-vous? Alors, dans les mots, vous avez une calligraphie particulière, et cette calligraphie correspond à une forme et correspond à un nombre. Alors, ça, c'est un exemple au niveau du M. D'autres exemples dans l'Église, vous avez le ciboire. Le ciboire qui est composé comment? Qui est composé à l'extérieur d'argent, c'est-à-dire de couleur blanc, de couleur argentée, et à l'intérieur de couleur dorée, or, qui représente quoi? Qui représente la déesse mère, qui représente la mère, qui est liée à la lune, qui est liée à l'argent, qui contient à l'intérieur le fils, l'or, le dieu soleil. Alors, vous avez l'or qui est contenu dans l'argent. Donc, le ciboire est composé selon une forme, encore une fois, qui correspond à la mère qui contient le fils. Et vous avez, donc, dans ces rituels, des formes qui correspondent à des énergies. Et ça, c'est très important. Et on va voir comment, finalement, toutes ces formes sont liées à de la mathématique. Et vous aviez dans l'Église, bien sûr, des sons. Vous aviez des chants et vous aviez des morceaux joués à l'orgue. Alors, on sait aussi que chaque vibration, que chaque son émet une forme particulière. Par exemple, le « la » qui correspond correspond à l'universalité, correspond à l'initiation, correspond au chiffre 9. Vous avez le « si » qui correspond vibratoirement à la spiritualité. Pourquoi? Parce que le « si » correspond à un chiffre qui correspond à la spiritualité. Le « mi », par exemple, a comme valeur numérique le chiffre 8 et correspond donc à la matérialité. Le « mi », c'est la matérialité, voyez-vous? Alors, même les pièces musicales émettent des formes dans l'espace, émettent des couleurs dans l'espace, et ces formes, ces couleurs, permettre un travail magique, un travail ésotérique. Si bien que dans l'Église, vous aviez chaque objet qui émettait ses formes, c'est quoi? Vous aviez la musique, vous aviez la parole juste du prêtre, du Christus, c'est-à-dire de l'architecte à la voix juste, qui créait dans l'espace des formes et des couleurs. Et le clairvoyant qui entrait dans un lieu sacré, où était célébrée une messe, par exemple, voyait très bien, il voit toujours, la messe est célébrée correctement, des formes et couleurs dans l'espace. Et c'est ces formes et ces couleurs qui permettent de réaliser le travail magique de la messe. Alors là, on n'entre pas dans le détail de ça, mais c'est simplement pour vous donner un exemple. Au niveau des noms, au niveau des formes. C'est pourquoi, du reste, il y a une lettre qui est très importante, le H, par exemple. Alors, le H, c'est une lettre qui a une puissance liée à un nombre. C'est pourquoi les initiés vont avoir un H, qui est une lettre féminine qui montre leur état initiatique. Vous avez le dieu Hélios, qui commence par un H. Vous avez le monogramme du Christ, dans lequel est contenu un H. Vous avez Hermès, qui commence par un H. Vous avez Abraham, qui devient Abraham, avec un H, voyez-vous. Vous avez Endel, Max Endel, qui est un pseudonyme, qui est un hiéronyme, voyez-vous. Alors, le Endel, Max Endel, qui avait un nom préalablement, a pris ce nom, ce hiéronyme, dans lequel se retrouve le H, qui est la marque également des initiés. Alors, tout ça pour vous montrer que la forme est très importante. La forme est importante au niveau de l'écriture, au niveau des objets rituels qu'on utilise, au niveau de la musique, au niveau de la couleur. Et tout ça forme un tout qui permet un travail initiatique, un travail ésotérique. Donc, il faut avoir, pour réaliser une chose, une forme qui est conforme au travail qu'on veut réaliser. Sinon, tout est à l'eau, rien ne fonctionne. Regardons maintenant le 666, parce que la conférence porte sur le 666. Alors, on va voir le 666, qui a une valeur numérique, bien sûr, et on va essayer de comprendre qu'est-ce que cela peut signifier. Maintenant qu'on sait qu'un nombre, maintenant qu'on sait qu'un chiffre, c'est très, très important. Eh bien, le 666, si on le regarde, on se rend compte qu'il est formé de deux ternaires, c'est-à-dire qu'il est formé de deux trois qui se retrouvent ensemble. Or, le ternaire a déjà une signification. Le ternaire, bien sûr, là, on va être obligé de voir des significations de différents nombres, je ne peux pas non plus voir tout cela en détail. Je m'excuse pour les gens qui n'ont pas une formation en numérologie qui leur permettrait de faire plus de liens, mais vous essaierez par la suite d'aller voir dans des livres, dans des ouvrages sur ces sujets pour essayer de comprendre. Moi, je donne une conférence d'introduction maintenant. Alors, il faut composer avec ce que l'on a et avec les connaissances qu'on a. Mais disons que le 3 représente le ternaire. On l'a dit tout à l'heure, ça représentait la divinité. Ça représente également l'absolu. Voyez-vous? Et ça représente également un état de complétude. C'est pourquoi, lorsque Saint-Pierre, je vous donne des exemples pour que vous preniez mieux, lorsque Saint-Pierre a renié le Christ, il l'a renié 3 fois. C'est pourquoi, dans certaines traditions ancestrales, pour se débarrasser d'une maladie, on disait des mots pour se débarrasser de la maladie, et on crachait 3 fois par terre pour s'en débarrasser complètement. Donc, 3 représente dans la tradition la complétude. Alors, si on regarde maintenant 2, 3 qui sont ensemble, eh bien, ça crée une révolte. Parce que vous avez le premier ternaire et le deuxième ternaire. Tous les deux sont complets. Tous les deux sont absolus et ils sont face à face et ils frontent. C'est ça la valeur numérique du 6. Le 6, c'est un chiffre de révolte. C'est pourquoi, au 6e chapitre de la Genèse, c'est là que la révolte commence. La révolte est amorcée dans le chapitre 6 de la Genèse. Et le 6, donc, symbolise ce premier absolu, qui est la divinité, ce premier ternaire, et un deuxième ternaire, qui est l'esprit créé. Alors, vous avez le Créateur et l'esprit créé. Et c'est cet esprit créé qui, à un moment donné, lorsqu'il s'est assez imbu de son propre moi, qui devient un égoïsme suprême, qui s'élève en absolu et qui se dit « voilà ». C'est la personnalité humaine, par exemple, qui va s'élever en absolu face à l'esprit. Et là, il y a un combat entre deux absolus, entre deux idées de complétude. L'équilibre, lui, ne pourra pas arriver avant qu'on arrive à un autre chiffre. Alors, le 6 représente un déséquilibre, une révolte entre deux unités ternaires. Ces deux unités ternaires sont symbolisées, bien sûr, par des triangles. Regardons maintenant en géométrie. Si on regarde en géométrie qu'on met 2 triangles côte à côte, on ne peut pas réaliser une forme qui soit stable. On va obtenir un losange. Un losange, si on le met sur une pointe, bien sûr, il tombe. Il n'y a pas de stabilité à ce niveau-là. Si on le couche sur un côté, il n'y a pas non plus de stabilité, parce qu'il y a une pointe qui n'est pas complètement posée sur le sol. Et il y a un déséquilibre. Essayez de mettre un losange en équilibre, vous n'arriverez pas. Alors, voilà déjà que dans une représentation matérialisante, lorsqu'on prend les triangles et qu'on en fait des formes et qu'on les met sur une table, on se rend compte que déjà, on ne peut pas atteindre l'équilibre. Ça nous montre comment la valeur numérique a une fonction. Et que si on dit que le 6 est déséquilibre et combat entre deux absolus, eh bien, on se rend compte dans un plan géométrique matériel qu'il y a aussi ce déséquilibre. Ces triangles ont été représentés dans l'addition ésotérique par 2 triangles posés comme ceux qu'on retrouve dans le pentagramme. Vous connaissez la figure du pentagramme. Si vous inversez le pentagramme, vous mettez la pointe unique vers le bas, vous avez 2 triangles. Ces 2 triangles représentent les cornes de Lucifer, par exemple. Alors, ces cornes de Lucifer, le triangle présenté d'une manière inversée comme ça symbolise la magie noire et tous les phénomènes de magie liés aux puissances lucifériennes. Alors, vous avez les 2 cornes qui représentent les 2 triangles en opposition. Alors, lorsque vous voyez un pentagramme inversé, vous savez que c'est la valeur du 6 qui est représentée, les 2 triangles en haut. Donc, c'est ce déséquilibre qui est lié finalement au 6. Vous savez également que le 6 est un principe génétique. Regardez maintenant dans la Genèse. Vous allez vous rendre compte que la création a été faite en 6 jours. Vous allez vous rendre compte que le premier mot de la Genèse, c'est Bereshit. Bereshit bara Elohim et le reste en hébreu. Et que le premier mot de l'Évangile selon Saint Jean, c'est Bereshit également, qu'on a traduit par au commencement. Donc le 6, Bereshit, c'est une valeur qui est une valeur de Genèse, qui est une valeur de commencement. C'est pourquoi les mères, comme Marie et les autres, ont reçu l'Annonciation le 6e jour. Le commencement, donc, débute le 6e jour. C'est pourquoi, lié au Bereshit, Bereshinti, la nature mère des dieux, était aussi liée au chiffre 6. Ce qui fait qu'il y a un rapport génétique dans le 6. Dans le 6, dans le 6, dans le sexe. Voyez-vous, simplement au niveau phonétique, on arrive au sexe. Et on nous montre comment le 6 et ce sexe, et ce principe génétique créateur, ce commencement qui est dans l'homme, ce commencement de Dieu créateur ou ce commencement de bête aussi. Vous avez dans la tradition hébraïque, dans la loi hébraïque, 6 jours de travail. Vous avez 6 ans d'ensemencement, 6 jours de cueillette de la manne. Vous avez 6 ans de servitude de l'esclave. Donc le 6 est lié premièrement à un principe génétique, un principe sexuel, et ensuite il est lié au travail de l'homme. Le 6 représente, si l'on veut, la matière parfaite également. Parce que si vous prenez un 6 et que vous décomposez, vous allez obtenir dans les nombres le 3, le 2 et le 1. Et si vous additionnez 3 plus 2 plus 1, vous obtenez encore une fois le 6. Alors ça avait inspiré les anciens qui s'étaient dit, voilà, le 6, si on divise dans ses parties, on obtient encore le 6, ce qui montre que ce 6 n'a rien de superflu et qu'il n'a que le nécessaire. Donc le 6, c'est la matière parfaite. C'est la perfection de la matière qui va aussi attirer l'homme. L'esprit, vous savez, est séduit dans son processus d'évolution, dans son principe d'incarnation, par la perfection de la matière. Ça, c'est évident. C'est pourquoi aujourd'hui, je dirais que 95% de l'humanité est orientée vers les mystères de la perfection de la matière. On fait de la recherche sur la matière. Et on fait de la recherche sur la matière. Alors, vous avez cette matière parfaite qui est symbolisée par le 6. Donc, la matière, le travail humain et la Genèse. On peut d'ailleurs, pour la Genèse, redonner un autre exemple, qui est la théorie pythagoricienne du 6, qui disait, voilà, le 6 est composé du premier nombre impair, le 3, qui représente l'élément masculin, et est composé du premier nombre pair, le 2, qui représente le nombre féminin. Est-ce qu'on comprend maintenant ce que cela signifie? 2 fois 3, voyez-vous, c'est la femme qui s'unit à l'homme. Il faut comprendre la tradition des chiffres. Je sais que c'est difficile, c'est parachuté pour une conférence, mais il faut essayer de voir dans quel esprit on conçoit ces choses-là. Donc, c'est l'homme et femme qui s'unissent et finalement opèrent, si on veut, la genèse d'un nouvel individu. Donc, le 6, si on résume, c'est ceci. C'est l'opposition entre deux ternaires absolus. Donc, dans la matière, un déséquilibre, une opposition, disons, même entre l'esprit et la matière, entre deux ternaires. Vous avez ensuite ce principe qui est le plus important, le principe sexuel de Genèse. Donc, le 6 est lié à la reproduction, à la sexualité dans l'homme, ça c'est évident. Voilà pourquoi le sénaire est lié à la sexualité. Le sénaire a aussi une autre forme dans l'espace. Le sénaire a une forme qui est inversée. Et cette valeur inversée va nous donner ce qu'on appelle le 9. Alors, regardez, par exemple, dans les tirages de l'auto, vous allez vous rendre compte que si on met dans un boulier un 6 et un 9, eh bien, il faut avoir une marque sous le 9 ou sous le 6 pour être bien certain que c'est un 6 ou un 9, parce qu'autrement, c'est le même nombre. Donc, le 6, si on ne fait que l'inverser, on obtient un 9. Et ça, c'est une clé. Ça, c'est une clé du développement ésotérique futur de l'humanité. Être capable de partir d'un 6 qui est à l'intérieur de soi, et le transmuter en un 9. Et là, on repart en 9, voyez-vous. Le 6-là, qui a une connotation sexuelle, je le rappelle, pensez au 69, ça va éveiller en vous cette connotation sexuelle. Alors, ce 6 peut être inversé et en 9, et c'est ce qui mènera à l'initiation, et c'est ce qui mènera à la réalisation de l'homme. Si on revient à notre nombre particulier du 666, 666 va représenter quoi? Va représenter la révolte de l'esprit créé, de l'esprit dans la matière, face à son Dieu, à son absolu. Et une révolte qui ne s'opère pas uniquement sur un plan, mais qui s'opère sur les trois mondes, sur les trois plans, c'est-à-dire 6, 6, 6. Comme je vous donnais tout à l'heure l'expérience de cracher 3 fois pour se libérer, voyez-vous, Vous aviez également les trois Kyrie, les trois Sanctus, si on se retourne dans une tradition de l'Église. Donc, les trois mondes, les trois plans. Et la révolte est complète lorsque on a le 666, révolte sur les trois plans. Et représente également une sexualité égoïste, une sexualité passionnelle, une sexualité empreinte et séduite par la perfection de la matière, donc une sexualité qui est orientée vers la satisfaction des désirs et des passions. Vous avez également donc la possibilité d'arriver avec un 6 à opérer une réalisation qui va vous mener au 9. Ce 9-là symbolise quoi? Je viens de vous dire que le 9 symbolise l'initiation. Le 9 symbolise l'ensemble, si on veut, de la tradition initiatique. Dans la sagesse populaire, vous savez que ce 9-là va représenter par l'humanité et va ensuite représenter l'humanité réalisée ou accomplie. Maintenant, comment peut-on opérer pour obtenir d'un 6 un 9? On vous a dit tout à l'heure en inversant le 6. Maintenant, il y a un procédé qu'on appelle en ésotérisme la réduction théosophique. Si vous prenez 666, que vous le réduisez théosophiquement, vous allez faire ceci. Vous allez additionner 6 plus 6 plus 6. Et ça va vous donner 18. Vous allez additionner 1 plus 8, ça va vous donner 9. Alors, si vous réduisez théosophiquement 666, vous obtenez d'abord 18, qui est le chiffre hiérarchique, et ensuite le 9, qui est le chiffre de l'initiation de l'humanité. Ce qui vous montre que en réduisant le 666, en le purifiant, en le spiritualisant, puisque la réduction théosophique s'est conçue dans la théorie des nombres, la théorie ésotérique des nombres, comme une spiritualisation, en spiritualisant le 666, vous obtenez le 9. Alors, tout à l'heure, je vous disais, en inversant le 6, maintenant, on connaît comment inverser ce 6, c'est en le spiritualisant. Le 9 symbolise l'humanité. Pourquoi? Le 9 symbolise l'humanité parce que, dans la tradition ésotérique, on sait ceci. On sait que l'humanité a été divisée dans notre système solaire en 9 pulsions, 9 groupes d'esprits vierges qui se sont incarnés et qui ont manifesté l'humanité originelle. On sait qu'un homme va être complet, réalisé après 9 mois de gestation. On sait qu'il a en lui 33 vertèbres, 3 fois 3, 9. On sait qu'il y a 9 mystères mineurs, 9 degrés de mystères mineurs, qui correspondaient du reste chez Dagar aux 9 muses. On sait que l'initié est appelé fils de la veuve de Naïm, qu'on l'a mentionné tout à l'heure. Or, Naïm veut dire 9. On sait que le 9 est lié également aux 3 corps, aux 3 dimensions de l'esprit et aux 3 âmes de l'homme. Donc, l'homme est composé sur un plan intégral par le 9 et son initiation, symbolisée par les 9 mystères mineurs, par les 9 muses, par Naïm, par Teth, la 9e lettre de l'alphabet hébraïque, qui correspond au serpent, donc encore une fois à l'initiation, qui correspond également le 9 au 9e signe du zodiaque, le Sagittaire, qui est la conscience élevée, la conscience christique. Alors, on comprend que le 9, c'est le nombre de l'évolution et de la spiritualisation et de l'initiation de l'homme. C'est pourquoi il y a 9 vertus. Comprenez-vous? Il y a 9 vertus que l'homme doit développer. Et ces 9 vertus vont pouvoir être développées avec des neuvaines. Alors, ce n'est pas pour rien que la tradition religieuse a institué des neuvaines. Les neuvaines sont un moyen parfaitement adapté à l'homme, de par le fait qu'il est neuf lui-même, et qu'il doit passer par la puissance ou la vertu du neuf pour être initié ou pour se développer spirituellement. Donc, pour opérer sur un plan spirituel un exercice de développement, il devait être basé sur la valeur, sur la vertu du neuf. Beaucoup plus d'ailleurs que sur l'exercice lui-même. Alors, c'est pourquoi on a donc développé dans l'Église les neuvaines qui permettent à l'homme de suivre un processus de spiritualisation et d'évolution adapté à ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire un homme. Et ces neuvaines permettent de développer les 9 vertus, précisément, qui vont le mener à la pleine évolution. Si on résume donc d'une façon brève la question, on se rend compte qu'il y avait d'abord le 666. le 6 qui représentait la sexualité passionnée, qui représentait l'illusion de la matière, qui représentait la révolte. Si on spiritualise cet état, on obtient le 9, que l'on a simplement à inverser calligraphiquement, où là, il y a la nature basse, la personnalité qui est dominée par l'individu. C'est pourquoi, par exemple, vous allez retrouver chez l'évêque la crosse épiscopale qui est couronnée d'un 9, pour montrer que l'évêque est cet initié qui a le contrôle complet sur son énergie sexuelle, symbolisée par la crosse épiscopale, voyez-vous, qui est couronnée donc par ce 9. Donc le 9 qui symbolise l'initiation suprême et le contrôle de la matière. Et on a vu que pour passer de l'un à l'autre, c'était la voie de la spiritualisation et du développement initiatique qui devait être empruntée. Alors c'est comme ça qu'on comprend éventuellement que 666 est un chiffre d'homme. C'est-à-dire que c'est l'humanité à une certaine étape de son évolution qui s'appelle 666. C'est l'humanité à une étape de son évolution qui est complètement dominée vibratoirement par la passion, par l'égoïsme. Mais un peu plus tard, cette même humanité va atteindre le degré qu'on appelle le 9, c'est-à-dire qu'elle va avoir maîtrisé cette personnalité inférieure, va avoir maîtrisé ses bas instincts et va pouvoir devenir un être qui va avoir un parfait contrôle de ses véhicules et un parfait contrôle de ses énergies. Et alors là, on entendra, comme dans l'Apocalypse, comme on le dit dans l'Apocalypse, le cri glorieux, elle est tombée, Babylone la Grande. C'est-à-dire le principe de la perversion sur tous les plans aura chuté, et c'est à ce moment-là que l'homme triomphera et que l'homme pourra régner sur lui-même et sur la terre avec ce que Saint Jean a appelé le sceptre de fer. Pourquoi un sceptre de fer? C'est parce que le fer est un métal martien. C'est parce que le fer est un métal qui se retrouve dans le sang au niveau de l'hémoglobine. Et c'est dans le sang que les esprits lucifériens ont introduit la passion. Et c'est ce fer qui est le lien vibratoire entre l'homme et Mars. Et les esprits lucifériens sont des êtres martiens. Et lorsque l'homme aura réussi à dominer ses passions, il aura le plein contrôle de son sang, de ses structures moléculaires qu'on appelle l'hémoglobine, qui sont composées au centre par un élément ferreux. Et à ce moment-là, il aura un parfait contrôle de son sang, véhicule de son esprit, et à ce moment-là, il aura complètement dominé l'aspect de la passion luciférienne, et il pourra passer à une nouvelle étape dans son évolution spirituelle. Mais c'est ce que symbolise le sceptre de fer. C'est ce que symbolise le chevalier qui a son sceptre de fer, c'est-à-dire qu'il a son contrôle parfait sur son énergie sexuelle, sur sa passion intérieure, et qu'il a réalisé en lui-même la transmutation du 6 en 9. Alors, c'est un peu brièvement exposé, bien sûr, le principe qui est à l'origine de ce fameux chiffre d'homme du 666. Maintenant, il faut bien sûr l'interpréter avec toutes les clés de la tradition ésotérique, et je vous invite à vous familiariser avec les données traditionnelles, anciennes, concernant les nombres. Et vous allez être en mesure de comprendre beaucoup mieux pourquoi, par exemple, le 6, c'est le principe de la révolte. Pourquoi le 6, c'est le principe génétique, le 2 fois 3. Et pourquoi le 2, c'est lié aussi à un élément de féminité. Pourquoi le 3, c'est lié à l'élément masculin. Et enfin, tout ça, c'est lié à une tradition, bien sûr, ancienne, à la tradition pythagoricienne, entre autres, qui venait du reste de la tradition atlantéenne. Mais essayez de comprendre tout cela pour enfin, finalement, comprendre que l'Apocalypse, et c'est peut-être là-dessus qu'on se doit terminer, l'Apocalypse, c'est un livre hermétique, c'est un livre d'occultisme, c'est un livre qui montre toutes les étapes que l'homme doit cheminer pour quitter son état d'être impuissant et devenir éventuellement un impuissant, c'est-à-dire un être qui est quand même limité dans la galaxie, mais qui a une puissance extraordinaire, qui a une puissance de Dieu créateur. Alors tout ça se retrouve dans ce texte initiatique qu'est l'Apocalypse de Saint Jean, qu'il faut bien sûr commencer à comprendre, qu'il faut bien sûr commencer à saisir dans toutes ses utilités de langage, dans toutes ses relations avec la tradition ancienne. Et à ce moment-là, on s'ouvre à un développement et à une méthode de développement spirituel qui va très certainement pouvoir transmuter en nous le 6 et le transformer en ce 9 qui nous donnera le pouvoir créateur qui sera éventuellement l'apanage de l'ensemble de l'humanité. Alors voilà comment dans un texte comme celui de Saint Jean, on peut prendre simplement un élément et en tirer tout un enseignement qui permette de mieux travailler dans une école initiatique, dans une école ésotérique, pour arriver à un travail qui mènera à l'ultime accomplissement de l'homme. Alors, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.